fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Gadjo, souviens-toi, ou l'internement des Tziganes en France, 1940-1946, de Jean-Pierre Tiercelin. Réalisation, Jacques Taroni. On dit que le XXe siècle mérite bien d'être appelé le siècle des camps. Pour s'en tenir à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas l'apanage de l'Allemagne et de l'Europe annexées par les nazis. De 1939 à 1946, quelques 200 camps recouvrent la carte de France. Certes, il n'est pas question de confondre ces camps avec les camps de concentration et d'extermination nazis. Mais n'oublions pas que ceux de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, où furent enfermés des milliers de Juifs, en furent l'antichambre. Dès novembre 1938, un décret-loi de la République française relatif à la situation des étrangers permet d'interner 500 000 réfugiés espagnols rescapés de la guerre civile et 20 000 Allemands et Autrichiens qui fuient le nazisme. Ils inaugureront les camps français. Tous sont placés sous la responsabilité unique de l'administration française qui en assure la gestion. C'est dans ce contexte qu'il convient de resituer l'internement des Tziganes en France entre 1940 et 1946. Une histoire dont personne, jusqu'à ce jour, ne semble pressé de se souvenir.
Tiens, grand-père, voilà les bières. Grand-mère m'a dit de te donner ta casquette pour ne pas attraper froid à la tête.
Merci, ma belle. Elle ne vieillirait pas un peu, grand-mère? Un voyageur, ça ne s'enrhume jamais.
Oh, plains-toi, elle prend soin de son homme. Et elle prépare le festin avec les tantes et les cousines. Elles ont apporté plein de bonnes choses. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Vous tenez vraiment à rester dehors?
Un soir de fête comme celui-là? Alors que mon ami Zanko et sa famille viennent nous rendre visite? C'est sous les étoiles que nous devons boire à nos retrouvailles. Allez, à la tienne, mon frère. Et ce n'est qu'un début.
Oui, et que le ciel veille sur toi et les tiens. Et que cette jeune pousse de Marina devienne une des plus belles vagabondes de ce grand jardin.
Ce jardin est le tien. Et je vois que les petits cousins se le sont déjà appropriés. C'est bien. Boire avec toi devant ce feu, entouré de toutes les caravanes comme autrefois, c'est ma plus grande joie. Tu sais, je n'ai accepté de me fixer qu'à la condition d'avoir, derrière la maison, un grand terrain où nos frères pourraient s'arrêter quand bon leur semble. Comme ça, j'ai un peu l'impression de continuer la route avec eux. Et comme on dit dans notre langue, si les montagnes sont immobiles, les hommes bougent.
Alors, vous êtes vraiment frère?
Oui, depuis bien longtemps.
Si vous êtes vraiment frère, c'est forcément depuis toujours.
Nous, c'est depuis presque toujours. Et c'est encore plus beau.
Comment ça?
Il m'a choisi comme petit frère. Je devais avoir dans les 5 ou 6 ans. Zurka, lui, c'était un grand, au moins 10 ans. Il a dit à sa maman qu'il fallait me garder parce que la mienne venait de mourir. J'avais plus de père non plus, il avait été emmené en Allemagne.
Alors ma mère a dit qu'un plus ou de moins, ça changeait pas grand-chose, vu qu'on était déjà 7 et qu'on avait tous faim. Elle a mis Zanko avec nous sous les dredons pour qu'il se réchauffe. Parce que, dans cette baraque, je peux t'affirmer que là, il faisait vraiment froid.
Mais quelle baraque? Tu veux dire la roulotte?
Ah non, on n'avait plus de roulotte. C'était les baraques du camp.
On ne savait pas pourquoi, mais on nous avait enfermés dans des camps. Et quand un Rome est enfermé, pour lui, c'est l'hiver à perpétuité.
De 1940 à 1946, environ 6000 Tziganes sont internés dans une trentaine de camps pour nomades. Mais si l'internement des Tziganes apparaît à première vue comme une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, il est surtout la suite logique d'un rejet qui a commencé 500 ans plus tôt. Notre civilisation sédentaire a toujours rejeté ces hommes libres qu'elle appelle bohémiens, romanichels ou gitans. Ils auraient quitté l'Inde vers la fin du premier millénaire pour émigrer vers l'Europe de l'Ouest. Au début du XVe siècle, ils apparaissent en France avec des passeports au nom de l'empereur de Bohême, d'où le nom de bohémien qui ne les quittera plus. De François Ier à Louis XIV, l'ancien régime essaiera constamment de les chasser quand il ne les condamne pas aux galères. Le XIXe siècle se révélera pire encore avec une politique de surveillance de plus en plus répressive. Le thème du voleur de poules, mais aussi d'enfants, fleurit alors dans les images d'Épinal. Après le recensement des bohémiens et nomades de 1895, elle trouvera son aboutissement dans la loi de 1912 et le sinistre carnet anthropométrique d'identité.
C'est bien simple, ils nous assimilaient à des criminels. Photos, mesures, empreintes digitales.
Et non seulement il y avait le carnet individuel, mais aussi le carnet collectif pour la famille.
Oui.
Il fallait les faire viser dans chaque commune où nous passions. Un vrai catalogue. Tu parles si je m'en souviens. Il est resté obligatoire jusqu'en 1969.
Beaucoup d'entre nous étaient français depuis plusieurs siècles. Mais avec ce système, nous étions moins que des étrangers. Juste des individus réputés nomades. C'était ça, notre appellation contrôlée.
Mais comment vous êtes-vous retrouvés dans des camps? C'est à cause de la guerre et des Allemands?
Sûr que les Allemands. C'était pas pour leur déplaire de nous voir enfermés. Surtout quand on sait ce qu'ils ont fait de nos frères d'Allemagne, de Pologne, de Transylvanie. Tous partis en fumée. Mais on ne m'ôtera pas de l'idée que pour beaucoup de bons Français, la guerre a été une sacrée opportunité pour tenter de se débarrasser de nous une fois pour toutes. Enfin, il vaut mieux oublier tout ça.
Mais non, pourquoi? Pourquoi? Oh, du calme, mes enfants! Je parle avec grand-père et Zanko, allez vous battre plus loin! Raconte-moi.
Non, non, tout ça c'est du passé. Laisse les enfants faire du bruit. C'est pas grave, c'est la vie. Et moi, je ne suis qu'une vieille bête qui parle trop. Tu sais, nous, on n'aime pas beaucoup parler du passé, ni des morts. D'abord, ça les empêche de vivre leur vie dans l'au-delà. Sans compter qu'ils peuvent en profiter pour venir nous tirer les doigts de pied pour nous apprendre à les réveiller. Surtout, si c'est pour leur rappeler de mauvais souvenirs. Il faut vivre dans le présent. C'est comme ça chez nous.
Oui, mais là, grand-père, j'ai peur que tu m'en aies déjà trop dit. Et j'aimerais bien savoir.
À quoi bon?
Elle a pas tort, la petite. Et moi, après tout ce temps, je finis par penser que ça ne serait pas mal que cette histoire ne soit pas complètement oubliée. Juste pour faire réfléchir les gadgets en cravate qui signent des décrets sans savoir de quoi ils parlent.
Peut-être. Mais va parler à des oreilles qui ne veulent pas entendre.
Il commence par les miennes. J'ai un ami Gadjo et il aime bien que je lui raconte des histoires.
Il sait ce que ça veut dire, Gadjo, ton ami?
Il sait que pour nous, ce mot désigne l'autre, celui qui n'est pas comme nous. Mais ça le rend triste, parce qu'il s'est pris de passion pour les tziganes.
Si tu lui fais son éducation, tu lui diras que tzigane, c'est bon pour les livres. Même avec de bonnes intentions, on ne sait pas trop comment nous appeler. Alors, il nous appelle comme ça. Mais nous, on n'emploie jamais ce mot-là.
Nous, on est des Roms, des voyageurs.
Si le mot « Rome » tend à s'imposer aujourd'hui, la terminologie est délicate. Elle peut varier selon les lieux et les époques en désignant des populations différentes. Manouche en France, Gitan en Espagne, Sinte et Zigeuner en Allemagne, Zingari en Italie. Sans parler des Calderaches, des Yéniches et de bien d'autres qui se divisent eux-mêmes en compagnies, tribus et familles. Mais le 6 avril 1940, alors que la guerre de position, qu'on appelle la drôle de guerre, continue de s'embourber, la République française ne s'embarrasse pas avec la syntaxe quand elle décide d'assigner les nomades à résidence. Le décret est proposé par Paul Reynaud, président du Conseil et ministre de la guerre, au président de la République, Albert Lebrun, qui ne manque pas de le signer.
Déjà en 14, alors que mon grand-père se battait pour la France dans les tranchées, une partie de ma famille avait été mise dans un camp de suspects. Les Roms, ça a toujours été des espions, c'est bien connu. Et pourtant, mon père et mes oncles ont continué de payer l'impôt du sang. Ils sont repartis défendre la patrie en 39.
Sans oublier ceux qui sont ensuite entrés dans la résistance.
Mais vous, quand on vous a assigné à résidence, vous étiez surveillé par qui? Les gendarmes français?
Je te crois. Ils adorent ça, nous surveiller, les gendarmes. Ils vérifiaient soigneusement si on avait bien fait tamponner notre carnet à la mairie. Vu qu'on ne peut plus bouger, ça manque un peu de suspense. Ils vérifient quand même. Enfin, ils obéissent aux ordres.
Ma famille circulait en Vendée. On est resté assigné à Saint-Gilles-sur-Vie. La côte atlantique est déclarée zone interdite. Nos plus beaux chevaux sont réquisitionnés et mes parents restent là à faire des paniers au bord de la vie. Ah, c'est le cas de le dire parce que pour eux, la vie, elle s'est pratiquement arrêtée là. Nous, les enfants, on court dans le marais avec une illusion de liberté. On pense que les roulottes repartiront.
Elles ne sont pas reparties.
Si, une dernière fois, mais escortées par les gendarmes, direction Montsirègne, une ancienne carrière qui avait servi de camp disciplinaire au bataillon d'Afrique. Comme la gare est à côté, un beau jour, on nous a mis dans le train direction Poitiers, le camp de la route de Limoges. Et c'est là qu'on s'est connus. Allez, ça s'arrose.
Ah. Oui, au bord de la route nationale, dans le vent et la poussière. Au début, les barbelés ne sont pas très efficaces. On fait de petites escapades du côté des champs, grappiller ce qu'on peut et attraper quelques hérissons. Dis-donc, Marina, il serait pas temps que grand-mère apporte le cochon de lait pour le faire griller?
Oui, je vais y aller. Mais toi, grand-père, tu venais d'où?
De Myos, pas loin d'Arcachon, dans les terres. Avant-guerre, mon père était marchand de chevaux sur les foires et les marchés. Il travaillait aussi avec les vignerons du coin. Il affûtait, rétamait, réparait les paniers, donnait la main aux vendanges. Il venait d'être démobilisé quand les gendarmes nous ont demandé de prendre la route jusqu'à Mérignac.
Mérignac, l'aéroport?
Oui, près de Bordeaux. Ça s'appelait Beau Désert. Un nom prédestiné. Le camp existe à peine, c'est le foutoir complet. On dort dans des roulottes.
Mais pourquoi sont-ils venus subitement vous arrêter pour vous enfermer?
C'est qu'entre-temps, la guerre avait été perdue, vite et bien. Le 22 juin 40, l'armistice était signé et la moitié de la France occupée.
Faut dire aussi que beaucoup de nos frères ont profité de la débâcle pour reprendre leur liberté. Sur les routes de l'Exode, ils croisent des chapelets de citoyens français qui étaient devenus nomades par la force des choses. Mais eux, ils manquent d'habitude.
Ça n'a pas traîné. Fixation des tziganes et regroupement dans des camps d'internement. Bizarrement, les Allemands n'appliquent pas leur sale concept ratio qui aurait justifié notre extermination. Mais rien ne dit que si la guerre avait duré... Alors ils chargent la police et l'administration française de s'occuper de tout ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État français ne les a pas déçus.
Si je comprends bien, c'est une décision allemande, mais appliquée par les Français.
Tu l'as dit. Mais appliqué avec un zèle de faillot qui essaie par tous les moyens de revendiquer l'initiative pour se faire bien voir. Comme pour les Juifs. Allez, assez parlé. File chercher grand-mère et son petit cochon. À la vie, vieux frère. Et ranimons ce feu. Allez, venez souffler, les enfants.
Le décret d'internement des tziganes en zone occupée date du 4 octobre 1940. En zone libre, beaucoup se retrouvent également internés dans des camps, comme Rivesaltes ou Barcarès, qui avaient servi à enfermer les réfugiés espagnols. Dans les deux zones, les camps sont utilisés à d'autres internements, parfois simultanément, comme à Poitiers, où le camp est séparé en deux, juifs d'un côté, nomades de l'autre. On ferme certains camps, on en ouvre d'autres, toujours dans les mêmes conditions d'improvisation et de précarité dont les tziganes font les frais. Au total, c'est une trentaine de camps d'internement des nomades qui quadrillent le territoire, de Rennes à Arc-et-Senans et de Bordeaux à Montlhéry, sans oublier un des plus importants, Montreuil-Bellay.
Bonsoir, chers auditeurs.
1943, camp de Montreuil-Bellay.
C'est un bien étrange voyage auquel je vous invite ce soir. Lorsqu'on quitte la vallée de la Loire, près de Saumur, après un quart d'heure de voyage en automobile, Montreuil-Bellay, charmant village de 2000 habitants, dresse les tours délicates de son château au-dessus des toits et des collines en pente douce qui donnent un délicieux petit vin. Peut-on se lasser de regarder un si beau paysage? Il faudrait le demander aux bohémiens groupés près de la commune dans un camp où ils ont troqué leurs roulottes contre des baraques. Ces bohémiens qui, il faut bien le dire, ont toujours eu l'art de taper sur les nerfs de la population. Autrefois, ils étaient gênants, mais on pouvait encore se permettre de supporter certains parasites dans la fourrure de l'État. Aujourd'hui, heureusement, tout cela est bel et bien terminé. Évidemment, 3 kilomètres au sud de la petite ville, le paysage devient beaucoup plus plat et moins ombragé. On peut même dire qu'il n'y a aucun arbre à l'horizon. Je me dirige maintenant vers le poste de garde où m'attend le responsable du camp. Cher monsieur, bonjour et merci. Merci de bien vouloir recevoir la radiodiffusion française pour nous dire quelques mots de ce camp d'internement de nomades dont vous avez la lourde responsabilité. Camp d'internement, c'est bien ainsi qu'il faut dire.
Pour être exact, l'appellation officielle est maintenant centre d'hébergement.
Qui a remplacé, je crois, le terme de camp de concentration, utilisé précédemment par les services de l'administration.
Effectivement. Mais cela reste néanmoins un lieu où l'on concentre un certain nombre de personnes que le gouvernement souhaite isoler du reste de la population pour des questions de sécurité.
Vous considérez ces individus comme dangereux pour notre société ?
N'oubliez pas que nous avons également dans ce camp des indésirables et asociaux en tout genre. des individus sans domicile, des clochards, des réfractaires du service du travail obligatoire. Oui, il y a là un caractère certain de dangerosité.
De même pour les nomades ?
De même pour les nomades. C'est une population à problème, qui depuis des siècles n'a jamais voulu s'intégrer à notre société. Il est anormal de sillonner ainsi les routes sans vraiment travailler et en vivant le plus souvent de vols et de rapines.
Vous dépendez uniquement de la préfecture ?
Uniquement. Nous gérons actuellement un effectif d'un millier de personnes.
Et vous arrivez à nourrir tout ce petit monde ?
Aujourd'hui, c'est l'ensemble du pays qui a du mal à se nourrir. Il serait anormal que les internés ne soient pas logés à la même enseigne que les vrais Français. Mais nous faisons de notre mieux pour leur donner une nourriture suffisante.
En fait, à Montreuil-Bellay comme ailleurs, de nombreux internés meurent des conséquences de la sous-alimentation. Ersatz de café le matin avec une ration de pain pour la journée, parfois un peu de viande à midi pour agrémenter navets, betteraves, choux, et le soir, une soupe trop claire. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Les douches ne fonctionneront jamais. Dans les baraques où s'entassent plusieurs familles, on étouffe l'été et on meurt de froid l'hiver. Dans ces conditions, la gale et les poux ne manquent pas de faire leur apparition. Cependant, dans cette détresse générale, il arrive que de trop rares bonnes volontés tentent l'impossible.
Je m'approche à présent, chers auditeurs, d'une nuée d'enfants de tous âges, visiblement sales. Certains sont habillés avec des vêtements de fortune. Ils font la ronde, entraînés par une religieuse. Mais voilà que celle-ci la quitte pour venir répondre obligeamment à nos questions. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Puis-je vous demander ce qui vous a amené dans cet endroit où l'on ne s'attend guère à rencontrer des religieuses ?
Et pourquoi donc ? Nous essayons d'être là où nous pouvons nous rendre utiles et aider nos semblables. Être ici est pour nous un devoir.
Mais tout de même un camp de nomades.
Justement, il semble qu'ils aient en ce moment tout particulièrement besoin d'être soutenus. Vous ne trouvez pas ? Nous sommes arrivés ici à la demande de la Croix-Rouge pour nous occuper des enfants en bas âge, afin de créer un dispensaire. Ce qui n'a malheureusement pu être fait. Nous sommes 4 franciscaines qui faisons de notre mieux. Excusez-moi un instant.
Sœur Marguerite ! Sœur Marguerite ! Pendant que je réponds à monsieur, je vous laisse faire la distribution de biscuits vitaminés. Merci.
Allez les enfants, sœur Marguerite a quelque chose pour vous. Voilà, je suis à vous.
Quel est votre rôle exact ? Vous semblez vous occuper de beaucoup de choses à la fois.
C'est le moins qu'on puisse dire. Certes, nous n'oublions pas que nous sommes des religieuses. Et une partie de notre baraque a été transformée en chapelle et l'autre en salle de catéchisme. Il est entendu que ne viennent que les volontaires. Nous ne forçons personne, c'est la règle. Nous avons essayé l'alphabétisation, avec un succès tout à fait relatif, il faut bien le reconnaître.
Je vois, ma sœur, que la passion de votre sacerdoce vous emporte. Mais parlons des enfants, si vous le voulez bien. Certains sont restés près de vous pendant que nous parlons. Je vois ici un petit garçon pieds nus, sans pantalon. Qu'est-ce qu'il croque, ce petit bonhomme ?
C'est mon petit Zanko qui a toujours faim. Zanko, laisse ce grillon. Je vais te donner un biscuit. Sa maman est morte en couche il y a quelques mois. Le bébé n'a pas survécu. Lorsqu'ils étaient au camp de Poitiers, le papa était embarqué pour Compiègne. Et de là vers l'Allemagne, direction les camps de travail forcés. Mais Zanko a tout de suite été adopté par une autre famille. Il y a une grande solidarité chez eux, vous savez. Nous aurions sans doute beaucoup à apprendre.
Zurka, viens chercher ton petit frère. Et laisse Sora. Oui, il est très beau. Bravo.
Il les tue avec une baleine de parapluie. L'autre nuit, un enfant a été mordu dans son sommeil.
Allez, viens vite. L'abbé va vous emmener promener.
L'abbé ?
L'abbé Jolec. Vous le voyez là-bas, derrière les barbelés ? Il nous attend.
Bonjour, monsieur l'abbé. Ça va ? Les enfants arrivent, je vous rejoins.
C'est le curé de Méron, juste à côté. Il s'est tellement battu pour les nomades, il a tellement dénoncé leur misère que l'administration a fini par s'en agacer et que l'évêque s'est désolidarisé de lui. Résultat, il n'a plus le droit d'entrer dans le camp. Mais on laisse quand même emmener les enfants faire une promenade. Il leur apporte toujours des friandises. C'est dur pour lui, dur et injuste.
Et vous, ma sœur, il y a des choses que vous auriez envie de dire ?
Le silence est aussi une vertu. C'est une règle dans notre ordre. Et ce peut être une sagesse devant un micro. Aussi bien intentionné soit-il.
Si sœur Marie-Joseph ne peut en dire plus à ce reporter bien en vue, c'est que des personnes comme elle sont mal tolérées par les autorités. Elles peuvent s'apercevoir de certains dysfonctionnements dans les rouages de l'administration du camp. Si la nourriture manque cruellement pour les détenus, elle n'est peut-être pas perdue pour tout le monde. Comme à Jargeau, dans le Loiret, où les détenus finiront par écrire une pétition pour dénoncer les abus.
Tenez, mademoiselle, voilà encore une fournée. J'ai fini ma tournée des baraques. Ce matin, il n'y a rien à dire, ils ne sont pas trop fait prier pour aller à l'école. Mais il y a des jours. Il faut que je les récupère sous les chalis, avec une canne à pêche. Ils ont pourtant une gentille maîtresse. Allez, entrez, bande de petits monstres.
Merci, brigadier. Attendez, les enfants. Avant d'enfiler vos tabliers, passez voir Madame Simone, qu'elle secoue vos vêtements et vous fasse un peu de toilette. Regardez-moi ça. Ils sont pleins de poux, ça grouille de partout. Je ne sais plus quoi faire.
Tenez bon, mademoiselle Marivonne, les alliés avancent. La fin de la guerre est pour bientôt. D'ici peu, ce camp n'aura plus de raison d'être.
Puissiez-vous avoir raison. C'est vrai que l'effectif a été réduit en raison des libérations anticipées.
Il devrait y en avoir de plus en plus. Même s'il n'est pas facile pour eux de prouver qu'ils ont un travail et un domicile fixe quelque part.
Et avec une autorisation du maire de la commune concernée, c'est la règle. Pour beaucoup, c'est impossible.
Sans compter la délation. Regardez. Encore une lettre arrivée ce matin. Plusieurs larcins ont été commis. La rumeur publique accuse les membres de cette famille. J'ai en conséquence l'honneur de proposer que cette tribu, qui n'a pas de domicile fixe, soit internée au camp de Jargeau. Je vous prie de croire, etc. Signé, un bon citoyen.
Quelle tristesse. J'aurais au moins appris à lire à ses enfants. Ça les aidera peut-être à mieux se défendre. Mais au bout du compte, je me demande si on ne fait pas fausse route. On veut leur faire singer un mode de vie dont ils ne veulent pas. Dites, brigadier, est-ce qu'on enferme le vent dans une bouteille ?
Pardon ?
Ce sont les enfants qui m'ont appris cette expression.
L'année 1944 est celle de la libération de la France, mais pas celle des Tziganes. Dans les camps français, les soldats allemands, les collabos et autres trafiquants du marché noir remplacent les internés politiques et administratifs, mais les Tziganes, eux, restent derrière les barbelés. Le gouvernement provisoire et la toute nouvelle 4e République ne font pas mieux que leurs prédécesseurs. En mars 1945, le ministre de l'Intérieur se justifie en précisant que l'internement est une mesure préventive destinée à mettre hors d'état de nuire des individus dangereux pour la défense nationale et l'ordre public. Cela s'applique évidemment aux nomades. Certains subiront ainsi près de 2 ans d'internement supplémentaire.
On nous a transférés de Montreuil-Bellay à Jargeau en janvier 1945. Nous étions près de 300.
Mon père a travaillé à la poudrerie de Salbris. Ça leur faisait de la main-d'œuvre à bon marché.
Ah, sûr que dans le coin, le camp n'a pas été une mauvaise affaire pour tout le monde. Même si ensuite toute la population est devenue miraculeusement amnésique.
Et ce camp, il a bien fini par fermer.
En décembre 1945. On nous a laissé repartir à pied, comme ça, comme des chiens. Ensuite, on a tenté de retrouver nos roulottes et celles de la famille de Zanko. Mais tout avait été pillé, brisé, saccagé. Il ne restait plus rien.
Et ton père, Zanko ?
J'ai appris bien plus tard qu'il était mort au camp de Sachsenhausen. Heureusement, j'avais une nouvelle famille que je n'ai plus jamais quittée.
Et que tu as sacrément contribué à agrandir, mon lascar.
Ah, tu t'es pas mal conduit non plus, mon frère. Bon alors, Marina, tu vas raconter tout ça à ton gadjo ?
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il va en faire ?
Je l'aide dans son mémoire d'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais.
Ça, c'est bien. Zurka, je sais ce que tu penses, mais on a bien fait de parler ce soir. Nos paroles ne seront pas perdues, j'en suis sûr. Tiens, Marina, je crois que j'ai un titre pour ton ami. Gadjo, souviens-toi. Qu'est-ce que t'en dis, Zurka ?
Oui, enfin, si Dieu le veut.
Ah, mais tu sais ce qu'on dit chez nous. Quand Dieu veut, même un balai peut tirer un coup de feu.
Allez, ranimons ce feu, et plus vite que ça. Venez voir les étincelles, les enfants. Oh, oh. Regardez, elle monte jusqu'aux étoiles.
Ah.
Le dernier camp, celui des Alliés, en Charente, ne ferme qu'en juillet 1946. Ce sera ensuite un silence de plus de 60 ans. La plupart ne se remettront jamais du traumatisme. Ayant tout perdu, de nombreuses familles seront amenées à se sédentariser, craignant de revivre à nouveau le même cauchemar. Leur mémoire sera bafouée et très peu seront indemnisés en réparation des préjudices subis, l'administration exigeant que les Tziganes fournissent une preuve de leur internement, ce qu'ils ne peuvent faire sans avoir accès aux archives. Quelques voix trop rares essayent depuis quelques années de briser le silence. Quand arriverons-nous à prendre en compte la spécificité de la culture tzigane et tenter enfin d'écrire ensemble cette histoire ?
Κοντά σου, ρίζω μονάχα για τον ερωτά σου. Είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κοινιάς και μ' αγαπάς.
Au fil de l'histoire, Patrick Légibel, Gadjo, souviens-toi, ou l'internement des Tziganes en France, 1940-1946, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Camille Garcia, Philippe Lodenbach, Jean Lescaut, Olivier Chauvel, Donatien Guillot, Cécile Gérard, Florent Houlier et Sophie Froissart. Bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Lidwin Caron, assistant à la réalisation Benjamin Hu, réalisation Jacques Taroni. La suite des Nuits de France Inter, c'est avec Jean Lebrun qui vous propose la rediffusion de la Marche de l'Histoire.